VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui dans l'actualité africaine, à Calais, en France, une migrante d'origine syrienne est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi, percutée par une voiture sur l'autoroute A16 aux abords du tunnel sous la Manche. A-t-on appris auprès du CODIS, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours? Nicolas Pineau est l'envoyé spécial de VOA Afrique en Europe pour une série de reportages sur les migrants de Calais. Écoutons sa correspondance.
Oui, le drame s'est déroulé à 2h30 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi. Une migrante syrienne a été écrasée, vous l'avez dit, par un véhicule près du site d'Eurotunnel. Il faut dire que tous les soirs, tous les jours, ces migrants tentent de monter dans un camion près du site d'Eurotunnel. Les pompiers sont intervenus sur place. La personne a été évacuée vers l'hôpital de Calais, mais décédée suite de ses blessures. La tension était palpable sur place puisque les pompiers ont été pris à partie par d'autres migrants. Il faut dire que la situation est intense tous les jours ici à Calais, dans le nord de la France. Au total, depuis le début de l'année, ce sont 15 migrants qui sont morts en tentant de rejoindre l'Angleterre. Calais, Nicolas Pineau, VOA Afrique.
Et rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com pour retrouver tous les reportages en Italie et en France de Nicolas Pineau, reportages consacrés aux migrants et aux réseaux de passeurs. Direction le Burkina Faso pour la commémoration aujourd'hui du 28e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Ce dernier a été abattu lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1987. Dans l'après-midi, Thomas Sankara et 12 autres victimes ont été enterrés à la Sauvette, au cimetière de Dagonin, dans l'est de la capitale, par une vingtaine de détenus de la prison centrale de Ouagadougou, dont Yamba Malik Sawadogo, qui s'est confié à notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Arrivé au cimetière de Dagonin, le régisseur nous a demandé de creuser. Dans un premier temps, j'ai compris qu'il voulait qu'on fasse une fosse commune. J'ai posé la question par deux fois si ce n'était pas possible qu'on puisse faire des tombes individuelles. Alors, il s'est fâché en un premier temps avant de se ressaisir. Il a accordé, il a dit « bon, pas de problème, faites comme vous voulez ». Voilà pourquoi on a pu effectivement creuser les tombes. Mais auparavant, il nous avait dit une dizaine. Donc, on a creusé 10 tombes. C'est quand les corps sont arrivés qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 13 corps au lieu donc de 10. Avant l'arrivée des corps, on ne savait pas qui étaient ces gens.
Alors aujourd'hui, le rapport balistique parle de corps criblés de balles. Ça, c'est quelque chose que vous saviez depuis cette nuit.
Oui. J'avoue que nous avions enterré les corps sanguins. Donc, toutes nos mains étaient totalement ensanglantées, le véhicule totalement ensanglanté. L'ampleur, quand vous voyez comment les gens étaient criblés comme les animaux, c'est vilain. Mais, comme je l'ai dit, ils étaient tous identifiables. Surtout Thomas était en rouge, en survêtement rouge. Donc, avec le sang, de loin, tant que vous ne le touchez pas, vous ne sentez pas qu'il y a du sang sur lui. Donc, c'est comme s'il dormait. Coucher les poings fermés, bouche baissée, c'est comme s'il transmettait un message. Cette image me reste toujours.
Est-ce que c'est une fierté d'avoir enterré un grand homme ou est-ce que ça vous fait mal d'avoir contribué à l'œuvre de ceux qui l'ont abattu?
Non, il y a deux lectures ici. Ça me fait mal parce que quand je parle de ça, jusqu'à présent, j'ai des difficultés. Mais la première lecture est que j'ai l'impression que Thomas n'est pas un homme comme les autres. Parce qu'à sa mort, il y a eu un témoin, Aluna Traoré. Il était là-bas. À son enterrement, il y a un témoin que je suis. Parce que quand je revisite cette histoire, je me demande pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Parce que j'étais pas obligé d'aller à cette corvée. D'ailleurs, j'avais dit à mon co-détenu de trouver 20 corvéables. C'est par la suite que je me suis dit, mais non, faut pas envoyer les enfants la nuit tout seul. Donc, je vais les accompagner. Donc, pour cela, je pense que c'est Thomas qui a voulu un témoin, bon, qui puisse quand même retracer la mort atroce qu'il a subie. La deuxième lecture, c'est que souvent je me demande pourquoi moi, parce que ça me fait mal. Quand je regarde, ça me fait mal et je me demande comment et quand est-ce que je pourrais, comment on appelle, vider ça. Parce que dès lors que j'ai commencé à parler, dès lors que j'ai pu déposer devant le juge. Et dès lors que j'ai commencé à parler, à un moment donné, je sentais que, bon, ça va, je me dégageais. Mais malgré tout, ça ne va toujours pas. Donc c'est vraiment un choc. Je ressens toujours ce choc.
Le témoignage de Yamba Malik Sawadogo au micro de Bagassi Koura. Deuil national, toujours au Burkina Faso, un deuil de 3 jours à partir de demain pour rendre hommage aux 22 Burkinabés tués dans la bousculade de Mina au pèlerinage de la Mecque. 7 pèlerins burkinabés sont également portés disparus dans la catastrophe qui a fait au moins 1633 morts, soit le désastre le plus meurtrier de l'histoire du Hadj. Direction la Guinée, le président sortant Alpha Condé est nettement en tête dans le dépouillement partiel du vote à l'échelle nationale selon les résultats préliminaires de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Pour sa part, le chef de file de l'opposition, Sélou Dalène Diallo, juge le scrutin inéquitable. Il a décidé mercredi de se retirer de l'élection présidentielle. Et élection guinéenne toujours. En début de semaine, Mamadi Condé, l'ambassadeur de Guinée à Washington, avait accusé la CENI sur nos ondes d'avoir délibérément égaré les fichiers électoraux de la diaspora guinéenne aux États-Unis. Aujourd'hui, nous vous proposons la réaction du commissaire Maxime Kovougui, directeur du département transparence électorale au sein de la CENI à Conakry.
J'avoue, j'ai eu une communication directe avec la CAMI et monsieur l'ambassadeur. C'était pratiquement le 10, donc la veille du scrutin, où j'ai exprimé, et je le réexprime, notre profond regret de constater que nous n'avons pas pu autoriser nos concitoyens de Washington de voter par récépissé. Comme l'ambassadeur l'a bien expliqué, les listes ne sont pas arrivées au site central pour donc les intégrer au fichier. Ils sont restés avec les récépissés et leur nom n'a pas pu être intégré au fichier national. Donc, ils n'ont pas reçu de carte d'électeur, qui est l'unique pièce qu'on présente dans le bureau de vote pour procéder son choix entre les candidats. Évidemment, c'est fort regrettable. Parlant même de ce que M. l'ambassadeur disait de mains invisibles dans pareilles choses, on est quand même, je dirais, dans les leçons à tirer et dans les dispositions de corrections à prendre. Nous serons amenés à mettre concrètement ces situations qui ne méritent pas d'être retrouvées ou rencontrées dans le processus.
Maxime Kovougui au micro d'Éric Manirakiza. Guinée, côté gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, François Lomsely Fall, a lancé un appel au calme et à la patience. Écoutons-le.
Rien ne peut se construire dans le désordre. Nous demandons à tout le monde de renoncer à la rue qui n'est pas la solution. Nous rappelons aux acteurs politiques leur engagement lors du précédent dialogue à privilégier le dialogue au détriment de la violence.
François Lomsely Fall, le ministre des Affaires étrangères guinéen. En RDC, hausse du nombre des cas de violation des droits humains. C'est ce qui ressort du rapport mensuel du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme qui mentionne plus de 500 violations en septembre. Selon le document, les agents de l'État sont responsables d'un peu plus de la moitié de ces abus. Le nombre des cas de violences sexuelles a augmenté avec 64 victimes enregistrées. Et il y a eu 21 violations des droits humains dans le cadre du processus électoral avec 28 victimes chez les membres des partis d'opposition. Côté groupe armé, la LRA, l'armée de la résistance du Seigneur et les FDLR ont commis le plus grand nombre d'abus dans le pays. Les États-Unis à la rescousse dans la lutte contre Boko Haram. Le président Barack Obama a annoncé mercredi l'envoi de militaires américains au Cameroun pour aider ce pays en proie aux attaques des islamistes nigérians. Michel Joseph.
Au total, quelques 300 militaires américains seront déployés au Cameroun, avec pour mission de mener la surveillance aérienne et la collecte de renseignements sur les activités des militants de Boko Haram. 90 ont déjà entamé leur déploiement au Cameroun lundi, a précisé le président Barack Obama dans sa lettre adressée à cet effet aux leaders du Sénat et de la Chambre des représentants. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, l'assistance militaire américaine s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux en vue de contrer la propagation du groupe militant nigérian et d'autres extrémistes. Les militaires américains travailleront en coordination avec le gouvernement